Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur Choc FM. Merci infiniment de nous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre chronique historique. Aujourd'hui avec Viateur Lefrançois. Bonjour Viateur.
Bonjour.
Comment est-ce que ça va?
Ah, toujours. Le soleil s'annonce là après plusieurs jours de grisaille et tout ça, mais ça... faut espérer.
Effectivement, ça fait plaisir. Et sur ce plaisir, on va essayer de continuer à parler de l'histoire du Canada. Il me souvient que la semaine dernière, durant la 10e chronique, vous avez parlé avec Guillaume Laurent de la capitulation des Canadiens. Et aujourd'hui, il nous faut parler de l'après-conquête. Alors, Viateur, les soldats et les nobles sont renvoyés en France. C'est ça, la réaction du roi Louis XV est de blâmer le gouverneur.
Oui, c'est ça, exactement. Quand dès que la capitulation est signée, les Anglais, naturellement, deviennent les nouveaux maîtres du pays et naturellement se retournent les soldats et les nobles en France. Et dès que le gouverneur Vaudreuil arrive à Paris, en fait, en France, il est jeté en prison à la Bastille, à Paris, et c'est parce qu'il tient responsable du déshonneur qui frappe l'armée française, parce que les Anglais n'ont pas donné un peu les honneurs de l'armée. Et ça, c'est vraiment un déshonneur là, pour une armée à l'époque, c'est ça. Et en même temps, ben il y a toute l'histoire aussi là, de fraude et tout ça de Bigot, de François Bigot. Donc, ils sont arrêtés il y a un grand procès à Paris, ce qu'il appelle l'affaire du Canada, et finalement, il doit rembourser des millions de livres à l'État. Donc, c'est toute une fin d'aventure, finalement.
Hein. Ah ouais, et j'imagine que pendant ce temps au Canada, les conquérants s'installent et que les Canadiens doivent obéir.
Absolument, c'est les nouveaux maîtres. Hein. En fait, nous, nos ancêtres changent de roi, changent de maître et changent de langue aussi. Ça, c'est ce qui était plus difficile. C'est assez facile au début, la cohabitation, mais c'est sûr que nous, on est un peu... nos ancêtres, les Canadiens, sont carrément... à terre, comme on dit, le pays est en ruine, Québec est détruite complètement des deux côtés. Les Anglais ont brûlé toutes les récoltes et tout ça. Donc, c'est finalement, en fait, au lieu de protester, on est obligé, il faut reconstruire, hein, c'est ça. Et puis en même temps, ben il faut maintenir la paix. Là. Les soldats, ils s'expriment pas dans notre langue et tout ça. Ils reçoivent la consigne quand même de se comporter correctement, mais le racisme s'installe quand même assez vite contre les Canadiens, naturellement.
Mais j'imagine alors que pour se rendre la tâche un peu plus facile, les nouveaux maîtres désarment les Canadiens?
Oui, ça c'est sûr hein, que c'est la première chose qu'ils vont faire de désarmer les Canadiens, parce qu'il faut dire qu'il y a des milliers de Canadiens qui ont participé à la guerre aux côtés des Français, à côté des Indiens aussi. Donc ils vont les désarmer, mais ils s'aperçoivent que ça n'a pas de sens, parce qu'en fait hein, c'est la famine, donc il faut qu'ils chassent. Et finalement, ben, quelques semaines plus tard, ils vont changer d'idée tout simplement. C'est une question de survie. Simplement, ouais, pour les Canadiens de l'époque.
OK. Et la France, dans tout ça, est-ce qu'elle est alors à abandonner les Canadiens à eux-mêmes?
C'est toujours un débat qui fait rage. Hein. Oui, ils ont abandonné dans un sens, mais il n'y avait pas le choix dans un sens. C'est une guerre mondiale. Hein. C'est une des premières guerres mondiales. C'est la guerre de 7 ans. En 63, Louis XV signe le traité de Paris puis abandonne toutes les possessions françaises d'Amérique du Nord, sauf les îles du Sud. C'est un traité de paix définitif entre la Grande-Bretagne, la France, le Portugal, l'Espagne. Donc, une affaire qui... En fait, hein, c'est une page qui se tourne, mais une autre qui s'ouvre.
Et pendant que ce traité est signé de l'autre côté de la mer, qu'est-ce qui se passe au Canada?
Dès que le traité est signé, là, les Anglais, naturellement, là, ça fait 3 ans hein, que la conquête a lieu. Et là, ben, ils peuvent agir. Et donc, ils vont abandonner le nom de Canada, puis on devient, nous, The Province of Quebec. Donc, c'est un peu... C'est comme ça que finalement le Québec s'appelle le Québec.
et qui sera nommé gouverneur à l'occasion?
En fait, c'est le Jim Murray, justement, qui était qui a été gouverneur à partir de la conquête, qui est quand même c'est quand même quelqu'un de tolérant. Il va occuper la fonction jusqu'en 1768.
OK. Et j'imagine qu'il y aura des nominations gouvernementales. Alors, les nouveaux sujets britanniques seront-ils acceptés par les nouveaux maîtres?
Ça va être difficile. Je dois dire qu'ils vont faire toutes sortes de lois pour exclure les francophones, naturellement, parce qu'ils doivent, si on peut le dire, signer, renoncer à leur foi, renoncer. Ils doivent prêter un serment d'abjuration du test qu'ils appellent. Donc, c'est assez spécial pour des catholiques de l'époque. Puis nous, on était, c'est sûr qu'à l'époque, nos ancêtres étaient très, très catholiques. Comme beaucoup de peuples, naturellement.
Alors, il me semble que ce serment d'abjuration-là est important. Est-ce que vous pouvez un tout petit peu nous l'expliquer, Viateur?
Oui, mais en fait, c'est en gros, là, en deux lignes, en une phrase, c'est les gens devaient renoncer à l'Église catholique puis adjurer leur foi, l'Église étant impie et naturellement pour les protestants rend pleine d'hérésie. Hein, c'est un peu ça. Donc, c'est sûr que c'est une grande phrase et finalement, les catholiques en général refusent, simplement.
OK, mais le serment était complété par deux autres déclarations. Quelles sont-elles?
Ben, il y a le serment du test. Là. Ça, c'est déclaré qu'il n'y a pas de changement d'eau en vin. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la religion.
Oui, effectivement, quand le prêtre lève la communion.
C'est ça. Ça. Donc, les protestants, eux, ne reconnaissent pas ça. Donc, c'est de reconnaître que ça n'existe pas. L'adoration de la Vierge non plus. Ou tout autre saint, donc sacrifice de la messe, tout ça. C'est ça qu'il faut, le serment du test. Donc, tout ça est pour l'Église de Rome, sont superstitieuses, idolâtreuses. Donc, c'est un peu, ils nient l'autorité du pape et tout ça. Donc, c'est beaucoup demandé, si on peut dire, aux catholiques de l'époque.
Ouais, c'est beaucoup demandé. J'imagine qu'une situation telle que celle-là est difficilement tenable. Est-ce que le serment a fini par être aboli?
Oui, mais très tard. Hein. En 1829, finalement, ça a été aboli. Donc, imaginez-vous, on est en 1763, donc assez. finalement, l'idée de ça, c'était de ne pas embaucher de francophones, tout ça, d'interdire tout ce qui était l'État fonctionnaire et tout ça. Donc, c'était ça l'idée, finalement. Quand il va abolir ça, ils vont prêter juste un serment sans fermentation de l'Eucharistie, de tout ça. Donc, pour nous aujourd'hui, hein, c'est un peu bizarre. Il n'y a pas beaucoup de monde qui pratique, mais à l'époque, là, c'était sérieux.
Effectivement. Et alors, un moment qui semble important, Viateur, c'est la mise sur pied du premier journal. Qui le fonde, ce premier journal-là?
En fait, ce sont les Anglais le 21 juin 1764, donc un an après la conquête, William Brown, Thomas Gilmore, c'est la première édition de la Gazette, Québec Gazette, ou la Gazette de Québec, donc qui est un journal bilingue. Donc c'est une étape, c'est sûr. Nous, on n'avait jamais eu de journaux avant, là. D'abord, il n'y avait pas beaucoup de monde non plus.
Et alors, pour comprendre le fonctionnement de la société en ce moment-là, et notamment du système judiciaire, qui est-ce qui nomme les juges?
C'est le gouverneur qui nomme les 10 premiers juges de paix de la province de Québec, mais ils devront tous être de religion protestante. Vous voyez le lien là, entre les serments du test et tout ça. Là. Donc, c'est ça qui arrive.
OK. Et sur le plan un peu plus général de la société, quelle forme de gouvernement s'installe dans cette colonie-là?
C'est sûr que les Anglais, un an plus tard, y arrivent peu à peu hein, dans la colonie. La plupart sont des gens qui pensent faire fortune ici, mais ils vont faire fortune aussi, certains. Donc, ils vont demander, la minorité anglaise va demander l'établissement d'une assemblée législative, mais choisit seulement parmi les sujets britanniques. Donc, parce qu'ils acceptaient les catholiques, en fait, les Anglais seraient minoritaires, puis là, ben, ce seraient les vaincus qui gouverneraient, ce qui serait plutôt unique dans l'histoire. Donc, ils veulent pas des francophones, on est majoritaire encore, là, finalement.
Donc, les francophones sont de facto exclus, alors même qu'ils sont majoritaires, mais est-ce que c'est le même cas dans la fonction publique?
La loi est faite pour que pas un francophone catholique, surtout, soit embauché, mais en réalité, ceux qui arrivent ici, les Anglais, sont souvent des aventuriers, hein, et ils sont pas très compétents, donc ils vont... Murray, finalement, va nommer plusieurs Canadiens parce qu'ils ont des compétences, hein, ils travaillaient pour le gouvernement avant et tout ça, donc ça fera pas l'affaire des Anglais, je vous dis.
Et justement, je pense qu'il est important de parler un peu de Murray, de James Murray, qu'on gagnerait à connaître, parce que cette attitude qui fut la sienne a été pour le moins salutaire, de choisir parmi les gens qui étaient sur place les personnes les plus compétentes possibles. Mais pour comprendre, peut-être qu'il faudrait qu'on sache qui est James Murray.
Oui, c'est ça. C'est un Écossais. Hein, donc, je dois dire que les Écossais, ils ont goûté avec les Anglais aussi. Hein, ça faisait pas très longtemps qu'il avait été conquis, pratiquement, là, avec beaucoup aussi de massacres à l'époque. Donc, finalement, lui... Il a débuté sa carrière militaire en 1736, donc hein, c'est quand même un gars qui a vécu. Il devient le premier gouverneur, mais il doit céder la direction en 1764 à Thomas Burton, parce qu'il compose avec une crise monétaire, une forte inflation. Puis aussi, ben, en même temps, il faut qu'il y ait une politique pour angliciser les nouveaux sujets, là, hein, parce que pour être égaux aux Anglais, il fallait parler anglais, là, c'est sûr. Puis c'est un gouverneur qui est contesté par les Anglais aussi. Il est accusé d'obstruction à la justice, parce qu'il favorise les Canadiens, puis ça, il est accusé de favoriser les Canadiens aux dépens des Britanniques. Il est rappelé à Londres, finalement, en 1766. Et c'est Guy Carleton qui va remplacer Jim Murray, qui lui était un ami de James Wolfe, là, qui a conquis finalement. Mais James Wolfe, pour la petite histoire, il voulait éliminer tous les francophones, il voulait tous les affamer, et finalement, s'il y avait des survivants, il retournait en Europe. Donc c'est la politique du conquérant, si on peut dire, et Guy Carleton, c'était son fidèle ami, donc, pour le replacer.
Et pendant ce temps, la vie politique continue. Alors, un moment important, c'est la date du 13 juin 1774, où le Parlement britannique adopte l'acte de Québec. Que contient ce document, Viateur?
D'abord, c'est la première constitution québécoise, donc qui émane du Parlement de Londres. Il établit un conseil législatif, donc c'est intéressant pour légiférer dans la province du Québec, parce que peu à peu, la population quand même grandit. Hein. Les frontières sont agrandies aussi jusqu'au Grand Lac, donc vous voyez comment c'est intéressant de voir. On arrive finalement, ça couvrait l'Ontario, là, tout ce qui est le sud de l'Ontario aujourd'hui, là. Le libre exercice de la religion catholique aussi est légalisé. Le serment du test est remplacé par un simple serment, hein, pour devenir conseiller législatif et juge. Donc, vous voyez, là, peu à peu, ils s'aperçoivent que c'est plus dur qu'ils pensaient de nous en décider. Là, on avait la tête un peu dure aussi. Hein. Puis en plus, ils vont légaliser les lois civiles françaises dans l'appareil de justice de la colonie. Donc, vous voyez, c'est quand même assez loin, là.
Ben c'est vrai que c'est très très étonnant, l'adoption de cet acte là qui semble prendre en compte un certain nombre de particularités propres aux Canadiens. J'imagine qu'ils avaient peut-être quelque chose derrière la tête à ce moment-là.
Ah, absolument, c'est en fait, hein, on est en quoi, près de la Révolution américaine, hein? Et là, ben ça visait à s'assurer notre loyauté. Justement parce que il y avait peur que les Américains nous envahissent, et il y avait un peu raison, les Anglais, donc c'est un peu ça.
Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait, Viateur? Est-ce que les Canadiens ont refusé d'aller à la guerre?
Ben oui, c'est évident. Ben en fait, ça a été mitigé, mais quand le gouverneur anglais lui demande aux Canadiens de défendre leur pays, c'est sûr que nos ancêtres ont bien ri. Ben, la réponse était toute prête. Hein. Il dit, bon, ben, c'est plus notre pays, c'est le vôtre. Vous vouliez défendre là, c'est un peu ce qu'on leur a dit. Mais pour obtenir l'appui des francophones, ben ils ont fait des concessions, justement, sur avec ce tract-là. Là, les religieux, ben naturellement, hein, c'est toujours collé sur le pouvoir. Alors, ils sont devenus des recruteurs pour l'armée britannique, mais en réalité, les Canadiens, en majorité, vont rester neutres pendant le conflit.
Et cet acte de Québec-là a provoqué quand même la colère de 13 colonies anglaises.
Ah, absolument. Écoutez, ça met le faux aux poudres, hein, carrément. Ils n'acceptent pas que Londres puisse accorder des droits là, territoriaux à l'ex-ennemi là, qui est de la Nouvelle-France. Une quinzaine d'années plus tôt, c'était la guerre. Hein, ça, ils acceptent vraiment mal cette chose-là. Puis, en même temps, ben, hein, on est des papistes, là. on est des méchants, des mécréants, finalement. On n'est pas des anglo-saxons, et ça les stresse pas mal. Hein? Et puis, donc, comme ils disent, il y a reconnaissance en terre britannique de papistes canadiens, imaginez-vous. Puis là, les marchands de New York aussi, puis d'Albanie, ben, ils sont indignés de voir que leur expansion est limitée vers l'ouest, puis le commerce, finalement, de la fourrure, tout ça, revient à Montréal comme avant la conquête. Alors, c'est comme inacceptable pour eux, là.
Alors, Viateur, vous parliez il y a quelques secondes de la guerre d'indépendance des États-Unis. Pour cela rappeler, je crois qu'elle a été longue quand même.
Ah, c'était interminable pour eux, là, c'est évident. 1775 à 1783, imaginez-vous. C'est lors de la bataille de Bunker Hill, anti-britannique, puis les 13 colonies. À l'époque, quand même 2,5 millions d'habitants en Nouvelle-Angleterre, là, des 13 colonies, donc c'est quand même assez important. Mais ils voulaient leur indépendance.